Europe 1.
À la suite de votre grand journal du soir sur Europe 1 avec jusqu'à 19h le débat des grandes voix, Sébastien Krebs, avec ce soir autour de vous Laetitia Krupa, journaliste et spécialiste de communication politique, Roselyne Fèvre, chef du service politique de France 24, et Alexandre Malafaï, fondateur du think tank Sinopia. Et toutes vos réactions, vous pouvez participer à ce débat évidemment en direct au 39-21.
Bonsoir à tous les trois.
Bonsoir. Bonsoir.
Bienvenue en ce vendredi pour ce débat des grandes voix. À ce rythme, il faudrait 5 mois pour discuter et adopter les 65 articles de la réforme des retraites. L'Assemblée complètement enlisée ce soir face à la stratégie d'obstruction des oppositions, notamment de la France insoumise. Et la question qui se pose ce soir, l'utilisation du 49-3, le passage à l'adoption sans vote, est-il inévitable? Est-ce qu'on y va tout droit, Laetitia Krupa?
Bah, on y va, alors ça, celui qui me dira aujourd'hui si on y va ou pas, ça m'étonnerait qu'il soit parmi nous dans le studio. En tout cas,
ce n'est plus tabou.
Mmh. Voilà, effectivement, on a entendu le secrétaire d'État Djebbari dire aujourd'hui la détermination totale du gouvernement, en reprenant vraiment un vocabulaire qui vient tout droit de Matignon, du Premier ministre. Hein, ça fait depuis quelques mois maintenant que Édouard Philippe martèle cette détermination. Donc, dans la bouche d'un secrétaire d'État, ça semble plutôt cohérent. Et il dit aussi que le 49-3 n'est plus à exclure, en ajoutant que ce sera décidé en temps voulu. Donc, en fait, c'est assez malin de la part du gouvernement, puisqu'il place l'opposition, il la met en position de celui qui bouche et qui obstrue le dialogue, qui empêche ce dialogue attendu par tous les Français. Je vous rappelle que, pour l'instant, si c'est clair dans certaines têtes, tant mieux. Mais la réforme en tant que telle, dans le détail, n'est pas vraiment connue par les Français. Là, on est dans une situation de blocage. Donc, en désignant l'opposition comme celui qui bloque le blocage et donc le dialogue avec les Français, c'est plutôt confortable pour le gouvernement et il a cette sortie, cet échappatoire possible.
Roselyne Fèvre.
Alors, moi, je pense que le gouvernement, je mitigerai un peu la position de Laetitia, parce que je pense que le gouvernement est pris au piège dans les mâchoires de la France insoumise, bien évidemment, qui a tendu ce piège avec...
C'est exactement ce qu'ils cherchent.
49, absolument, les 41 000 amendements, dont près de la moitié sont totalement redondants ou en tout cas répétitifs. Et l'idée, bien évidemment, c'est pousser le gouvernement à ce qu'il fasse le 49-3 et on pourra entendre une fois de plus cette petite musique qu'on entend. C'est de la dictature. On est à quelques encablures de la dictature. Ce régime autoritaire, regardez, il ne laisse pas le débat se faire.
Et c'est exactement, pardon, je vous interromps parce qu'on va l'écouter, c'est exactement ce que disait Jean-Luc Mélenchon tout à l'heure à l'Assemblée.
Alors, je les accuse de préparer un 49-3 et de vouloir chauffer l'opinion en donnant l'impression du chaos dans l'hémicycle. Et dans ces conditions, le débat serait interrompu parce que Sa Majesté, le président monarque, a décidé que tout ça doit être terminé avant les élections municipales. Tout ça est fait avec une brutalité, une grossièreté qui n'a pas beaucoup de comparaison, si vous voulez bien consulter les archives, dans le passé de la vie de l'Assemblée nationale.
Voilà, c'est ce que vous disiez, Roselyne Fèvre.
Oui, c'est lui qui chauffe l'opinion. C'est lui qui chauffe le punant et qui pousse effectivement le gouvernement à faire ce 49-3. Vont-ils tomber dans le piège? C'est toute la question, bien évidemment, et bien malin celui qui pourra le dire. En tout cas, si 49-3 il y a, ce sera de toute façon une décision de Matignon. En tout cas, ce sera le Premier ministre qui le fera, comme en son temps Manuel Valls. Et par conséquent, on peut imaginer que ce sera lui le paratonnerre. Le problème, c'est que non, Édouard Philippe n'est pas le paratonnerre. Comme,
mais personne n'est dupe, de toute façon.
Mais oui, ce sera de toute façon, c'est dirigé contre Macron. Donc, que ce soit le Premier ministre ou le Président de la République, de toute façon, ce sera dirigé contre la personne stricto sensu d'Emmanuel Macron.
Alexandre Malafaï.
Le gouvernement est pris au piège de ses propres contradictions. D'un projet mal préparé, mal ficelé, pas chiffré, incompréhensible au regard du grand public, qui effectivement reçoit encore l'adhésion d'une majorité des Français en termes d'opposition. Donc, entre guillemets, ils n'ont que ce qu'ils méritent et ils sont pris au piège de leurs contradictions. C'est un projet qui vient d'en haut. On a eu une soi-disant concertation 2 ans, mais sans chiffrage, avec une approche qui n'a pas été très transparente. Et on donne 2 semaines à l'Assemblée. Tout le monde a raison de se mettre en travers de ce projet pour dire on n'en veut pas de votre projet. Ce projet comme ça, dans cet état, on n'en veut pas.
Oui, mais Alexandre, vous supposez que si le projet avait été clair, la France insoumise n'aurait pas déposé d'amendement pour obstruer le débat ?
Je vais vous dire, si ce projet était clair, je pense que la majorité des Français comprendraient qu'on puisse passer en force, mais sachant que je rappelle que l'esprit du 49-3, ce n'est pas le passage en force contre ces oppositions. C'est plutôt de forcer sa majorité à accepter un projet que la majorité a du mal à discuter. C'est ça l'esprit du 49-3.
Ce serait un usage assez inédit.
Bah, voilà, c'est l'usage, c'est quand on n'est pas sûr d'avoir une majorité.
Non, mais la majorité est longue.
Alors qu'ils l'ont.
Donc c'est un passage en force contre les oppositions, parce qu'il n'y a pas de débat. Je rappelle que le Parlement, c'est fait pour parlementer. On parle de quoi ?
Je pense qu'il n'y aura pas de 49-3, parce que s'ils font le 49-3, ils tombent de plein pied dans
Moi, j'ai fait le calcul. Si on y passe une minute par amendement, il faut 30 jours à temps plein, H24. Voilà. Donc, et c'est censé terminer quand, cette histoire ?
Alors, ils vont quand même dédoubler les 41 000
Alors, allons-y, même à 20 jours, H24.
Oui,
on
vous
y
avez...
Là, on en est à des rappels au règlement toute la journée, à des suspensions de séance. On va voir que ça fait débat, y compris dans la majorité, la piste de ce vote, entre guillemets, de cette adoption sans vote, qui pourrait être perçue comme autoritaire. À tout de suite.
Vous écoutez Europe 1, il est 18h38. La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1 avec le débat des grandes voix jusqu'à 19h. Ce soir, autour de vous, Sébastien Krebs et Laetitia Krupa, journaliste et spécialiste de communication politique, Roselyne Fèvre, chef du service politique de France 24, et Alexandre Malafaille, fondateur du think tank Sinopia.
Et vous participez à ce débat au 39-21. Bonsoir Michel.
Bonsoir les grandes voix.
Bonsoir à vous, merci de nous rejoindre. Vous nous appelez de l'Essonne. Michel, comment vous voyez ces débats qui n'en sont pas vraiment à l'Assemblée? Et cet enlisement de la réforme des retraites au fil des jours.
Je pense que la France insoumise fait simplement de l'anti-Macron et n'a toujours pas digéré que M. Macron ait obtenu 24% de voix au présidentiel. Et donc, ils font simplement de l'anti-Macron et ne veulent pas reconnaître que les Français ont voté pour cette loi, même si elle est mal ficelée, même si elle est mal faite. Moi, j'attends des députés, de l'ensemble des députés, qu'ils améliorent cette loi. C'est pour ça qu'on a voté. C'est pour ça. Il faut que les députés fassent leur travail. Les députés de la France Insoumise compris. Il faut qu'ils améliorent ce programme, ce projet qui est effectivement mal ficelé. Mais quoi qu'il arrive, la retraite par points, on y est et les Français ont voté pour.
Et voilà. Clémentine Autain de la France Insoumise, qui était dans ce studio ici même hier soir, assumait le fait en disant on ne cherche pas à être constructif, on cherche juste à bloquer. Donc voilà,
c'est. Mais ça, c'est une attitude gilet jaune. C'est-à-dire, c'est une attitude je rejette tout et je ne fais rien.
Merci.
À un moment donné, on vote pas pour ça. Voilà.
Merci beaucoup, Michel, d'être venu participer à ce débat ce soir. Comment on en sort du coup, si effectivement le 49-3 est un piège, comment on en sort?
En tout cas, ce qu'évoque Michel, là, c'était effectivement cette problématique d'image, c'est-à-dire qui va réussir à mettre de son côté l'opinion publique. Et effectivement, finalement, cette stratégie d'obstruction peut avoir aussi une image négative, c'est-à-dire qu'elle empêche ce débat que tous les Français attendent pour au moins un peu clarifier et savoir ce que contient ce texte enfin. Alors, il se rejette un peu la faute chacun, puisque l'opposition décrétant que puisque effectivement le gouvernement sera un peu enserré, il passera en force et donc ne respectera pas l'opinion publique. Donc, à qui la faute ? In fine, ce sera toute la question pour, encore une fois, l'opinion publique. Oui. Pour l'instant, on ne sait pas.
Roselyne Fèvre, il y a des doutes dans la majorité, encore aujourd'hui. Tous les députés En Marche ne sont pas forcément pour un passage en force.
Alors, d'abord, il y a des députés qui sont frustrés qu'il n'y ait pas de débat. Comme le disait Laetitia, ou comme le disait Michel, on attend aussi un débat. C'est pour ça que les députés sont élus, c'est pour qu'ils débattent des projets de loi à l'Assemblée nationale. C'est pour ça qu'ils sont élus. Et effectivement, comment on en sort ? Je ne sais pas du tout comment va faire le gouvernement. Est-ce que ils vont décider finalement que ça doit passer les municipales, puisque de toute façon, ils sont mal embarqués aussi dans les municipales, puisqu'ils n'auront pas de ville ? Il n'y a pas de maillage territorial, on se demande si c'est un parti. Voilà. Et puis, pour répondre, oui, pardon, j'avais un peu perdu le fil sur le 49-3, il y a des députés qui ne veulent pas du 49-3. J'en ai entendu, bien évidemment, certains. D'autres, en revanche, le voteront, sans état d'âme. Mais certains n'en veulent pas.
Bon, pour l'instant, ils sont 6 hein, dans la République En Marche. Il y a une tribune qui a été votée là.
Ils sont 6 à le dire, en tout cas.
Cet après-midi, 10 députés signent cette tribune. 6 sont de la République En Marche. Pour l'instant, c'est ultra minoritaire.
Oui. Ils sont 6 à le dire publiquement.
Oui, il y en a peut-être d'autres
en coulisses qui, pour l'instant, ne sont pas forcément favorables.
Depuis quelques semaines, normalement, ils sont débâillonnés.
Alexandre Malafaye.
Votre auditeur a raison, il pose une très bonne question. C'est le socle électoral, ce sur quoi vous vous appuyez pour faire passer une réforme, ce qui fabrique effectivement de l'adhésion et du consentement général. Alors, il nous dit qu'il y a 24% au premier tour, c'est vrai, ça fait 17% du corps électoral, ce qui n'est pas beaucoup, mais après, un deuxième tour particulier. Les Français, pardon de le dire, n'ont pas voté pour cette réforme. Ils ont voté dans une dynamique, ils n'ont pas forcément compris ce qu'on leur proposait précisément. Ce projet de réforme de retraite à points n'est pas le changement du contrat social dont parle Édouard Philippe depuis maintenant quelques semaines ou quelques mois. Donc, le vrai sujet, c'est est-ce que les Français s'approprient le projet. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc, quand les Français ne s'approprient pas le projet, pardon, on ne soigne pas un malade contre son gré. Alors, comment on en sort? À mon avis, on n'en sort pas bien de toute façon. Et je pense que le résultat ne sera pas satisfaisant, quel que soit le résultat, parce que même si c'est voté, ce sera voté en première lecture avec un texte sur lequel on n'aura toujours pas les chiffrages, puisque les chiffrages et l'approche budgétaire, elle est censée être entre les mains des partenaires sociaux. Et on voit aussi que ça s'enlise.
Ça n'avance pas.
Ça va passer au Sénat, ça va revenir à l'Assemblée. Donc, de toute façon, le sujet, de toute façon, passera les municipales. Mais il va continuer à nous entraîner pendant encore plusieurs mois.
Au cas où. Au niveau où ils en sont.
Non, mais de toute façon, ils n'ont plus qu'une chose, c'est à faire durer dans la durée, si je peux dire, et puis au bout du compte, pour arriver à un projet qui, de toute façon, ne sera vraisemblablement l'enjeu d'un nouveau débat électoral avec les élections présidentielles.
Enfin, imaginez, Alexandre, quand vous dites que le débat est mal ficelé, ou que le projet est mal ficelé, c'est vrai que c'est mal parti depuis le début. Il y a eu un micmac sur, effectivement, le conseil d'orientation sur les retraites qui, dans un premier temps, a dit qu'il n'y avait pas de problème de financement, et puis il est revenu dessus en disant il y a un problème de financement. C'est là-dessus qu'Edouard Philippe a dit il faut régler cette histoire de déficit. Aujourd'hui, on voit que personne n'est d'accord sur le constat du déficit. C'est bien pour ça que, enfin, en tout cas, certains syndicats le disent. Et cette obstruction qu'on voit à l'Assemblée nationale faite par Mélenchon, elle est faite de toute manière par Martinez.
Mais cette obstruction, elle n'est pas faite que par eux. Il y a encore plein de gens qui sont dans la rue. Je rappelle aussi la problématique de certaines professions comme les avocats qui continuent à faire grève. Imaginez la corporation des avocats qui, en général, je ne mets pas en travers, qui est plutôt légaliste, qui aujourd'hui continue à faire grève, qui repousse les audiences.
Pourquoi? Parce qu'on touche à leur
trésor
de guerre.
Non, c'est pas ça. Pardon, c'est
si,
du racket. Pardonnez-moi, Roselyne Fèvre. Quand vous imaginez demain, on vous augmente, on vous double vos cotisations. Pardon, on vous double vos cotisations. On vous pille vos économies. On double vos cotisations. Imaginons demain, en tant que salarié de France 24, on vous double vos cotisations sociales, on vous garantit une retraite à 50% de moins et en plus on vous pique vos réserves. Oui. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est ça les avocats. C'est ça ce qu'on fait aux avocats. Donc à un moment donné, il faut comprendre qu'il y ait des gens qui disent votre projet, on n'en veut pas. Voilà. Et tant que c'est compris comme ça et perçu comme ça, il y a plein de gens qui disent on n'en veut pas. C'est peut-être pas la vérité. Si c'est pas la vérité, alors qu'on mette les vrais chiffres sur la table et qu'on réunisse les gens, qu'on les rassure. Il y a 70 000 avocats.
Il
y a 70 000 avocats aujourd'hui en France qui sont contre. 70 000, il y a un consensus total. Voilà. Ça veut dire quoi?
Là, vous pointez effectivement le gros souci du gouvernement, c'est l'impopularité qui grandit. Et quand on regarde les sondages, deux tiers des Français sont contre le recours au 49.3. Pourquoi? Parce que ça va à l'encontre de tous les dogmes de ce que l'exécutif nous a présenté comme l'acte 2, qui devait comporter la concertation,
c'est la
le dialogue.
Force,
et là, on est complètement à contrario de cette promesse de l'acte 2. Donc, bien sûr que les Français, pour l'instant, sont contre. Et si cette impopularité continue de s'accentuer, là, le gouvernement, et notamment Emmanuel Macron, bien sûr en première ligne, sera très mal positionné.
D'un mot référendum, le mot est prononcé par les oppositions qui disent allons à un référendum.
Chiche, alors c'est un référendum contre le gouvernement et contre Emmanuel Macron, c'est perdu d'avance parce que de toute façon, le projet n'est pas compris. Après, c'est peut-être un très bon projet, il y a peut-être une très bonne philosophie générale. Et il y a sans doute une très bonne philosophie, il y a sans doute un système plus égalitaire. D'ailleurs, il y a des professions qui aujourd'hui sont plutôt les agriculteurs, on a bien vu qu'il y avait des gens qui pouvaient être gagnants. Et puis, il y a peut-être un problème de solidarité à revoir. Tout ça peut être expliqué, mais il faut que ce soit dit, expliqué et compris, et que derrière on fabrique du consentement. On fabrique pas une réforme aussi importante que ça contre la majorité des Français. Sinon, c'est voué à l'échec.
Aujourd'hui, même si le miracle économique allemand n'est plus vraiment là, combien de fois on a brandi le miracle des réformes Hartz en Allemagne et Schröder? Et aujourd'hui, on applaudit longtemps à cette économie florissante parce qu'il y a eu des réformes de fait. Oui. Mais rappelez-vous, sur le moment, d'ailleurs, ça a coûté à Schröder son poste de chancelier. Donc, comment une réforme? Au début, on n'aime pas le changement. On est un pays latin qui n'aimons pas le changement. On veut des réformes avec la tête et pas forcément avec les tripes.
Et ben on va voir comment ça se goupille la semaine prochaine et aussi ça se dégoupille.
C'est ça.
La semaine prochaine, ça, beaucoup de choses vont se jouer probablement la semaine prochaine. Dans un instant, on parle de Fessenheim.
Et vous écoutez Europe 1, votre grand journal du soir. Il est 18h49. Vous écoutez votre grand journal du soir sur Europe 1 avec jusqu'à 19h le débat des grandes voix. Ce soir, autour de vous, Sébastien Krebs, Laetitia Krupa, journaliste et spécialiste de communication politique, Roselyne Fèvre, chef du service politique de France 24, et Alexandre Malafaille, fondateur du think tank Sinopia.
Et après des années de débats sur le nucléaire et sur cette centrale de Fessenheim en Alsace, c'est une page qui va se tourner cette nuit. Arrêt définitif du réacteur numéro 1 de cette centrale. Ce sera à 2h du matin. On l'a vu tout à l'heure dans le journal, les salariés font de la résistance. Le maire lui-même les soutient. Il dit que c'est l'euthanasie d'un outil industriel qui aurait pu encore durer pendant 20 ans. Fallait-il arrêter ce réacteur de Fessenheim ?
Mais ça a été une décision, ça a été une décision politique en réalité. Ce n'est pas une décision financière, parce que ça marche effectivement. Enfin, c'est un secteur qui florissant, on va dire. Donc c'est François Hollande qui l'avait promis donc, dans sa campagne. Ça avait été... D'ailleurs, au préalable, le fruit d'un accord entre le Parti Socialiste et les Verts, et Emmanuel Macron l'a fait. Donc, le président s'inscrit dans le plan français, c'est-à-dire descendre les 70% d'origine nucléaire à 50% en 2035. Donc, il faudra fermer 14 réacteurs en plus de Fessenheim entre 2027 et 2035. Donc, effectivement, il y a le sujet de l'emploi qui se pose, puisqu'il y a 2000 emplois en jeu. Donc, là, on a entendu Elisabeth Borne, donc la ministre de la Transition écologique, qui a promis que tous les salariés retrouveront un emploi. Donc
14 réacteurs, oui. Vous disiez, la question c'est aussi comment on les remplace. Est-ce qu'on a l'énergie renouvelable aujourd'hui pour prendre le relais, Alexandre Malafaille?
C'est tout le grand sujet en fait, c'est pas une décision politique, c'est une décision idéologique. Après moi je voudrais juste rappeler aux Français qu'on les a pas consultés. On les a pas consultés sur un point central, parce que pour le coup ça les concerne vraiment. En 10 ans, compte tenu de l'impact de la transition écologique dans le mix énergétique, l'énergie française, l'électricité française a augmenté de 50%. Voilà, il faut juste le savoir. Et c'est globalement parti pour faire 50% encore dans les 10 prochaines années. Donc, on n'a pas consulté les Français, mais c'est ce qui va se passer, c'est ce qui se passe. Parce que, en fait, on ne pose pas les débats en France de manière satisfaisante. On ne se pose pas les questions de fond. De quoi on veut quand on veut l'électricité? On veut la continuité, le prix, l'impact carbone et l'indépendance énergétique. On veut ces quatre choses-là, d'accord? Le seul qui coche toutes les cases, c'est le nucléaire. Le fossile en coche 2 et le renouvelable n'en coche qu'un. Voilà. Et le renouvelable coûte beaucoup plus cher jusqu'à aujourd'hui. Et on a besoin, même le GIEC le dit, et Mme Vargon va dire que ça se démontre, non, même le GIEC le dit, on a besoin des centrales nucléaires pour pouvoir produire un bilan carbone de la planète satisfaisant à horizon 2050. Et on a même besoin de doubler, voire tripler, c'est le GIEC qui dit. Non mais je veux dire, c'est pour que
c'est ça,
le contre-pied français, le contre-temps français sur le sujet est absurde.
Et les écologistes ne veulent pas entendre ça.
Qu'est-ce qui va se passer? Mais ce que disait M. Lévy, d'ailleurs, je crois que c'était à votre antenne la semaine dernière, il disait, écoutez, c'est pas compliqué, la fermeture de Fessenheim, comme c'est du courant qu'on vend essentiellement aux Allemands, la conséquence c'est que les Allemands vont produire plus de carbone, charbon, parce qu'ils vont produire du charbon, utiliser du charbon pour faire l'électricité. Voilà la conséquence de la fermeture de Fessenheim, parce qu'en plus on n'a pas de politique européenne de l'énergie. Non mais je veux dire, on marche sur la tête, et après on nous dit le bilan carbone n'est pas bon. Ah bah oui, c'est normal, on prend des décisions idiotes.
Oui, parce que c'est vrai que c'est une... Alors, s'il y a des écolos qui m'entendent, ils vont bondir. Mais c'est vrai que le nucléaire, c'est une énergie qui ne produit pas de CO2. Donc c'est une énergie propre. En revanche, il n'y a pas de...
Oui, mais ce qui pose problème, c'est le traitement.
Il n'y a pas de risque zéro.
C'est les déchets.
Le traitement des déchets, l'enfouissement des déchets.
Milan,
d'accord, mais
à
ça veut dire qu'on ne pense pas au siècle prochain. Oui, d'accord, mais
en attendant,
une décision.
On pollue pas la planète. C'est ça que je veux dire.
Oui, je suis d'accord, mais après,
bien.
C'est
mais
toujours dans l'équilibre, c'est ça.
Dans
la balance, c'est ça. C'est le symbolique, c'est l'effectif là tout de suite, c'est l'écologie dans plusieurs siècles. Est-ce qu'on ne peut pas aujourd'hui penser l'équilibre écologique dans plusieurs siècles? Est-ce que c'est complètement abscon? Je ne crois pas. C'est pas parce que c'est dans plusieurs siècles qu'il ne faut pas y penser. C'est-à-dire qu'on nous demande sans cesse, en tout cas les Français demandent aux politiques, alors on ne les consulte pas, mais enfin si on lit bien tous les sondages, ils demandent aux politiques de prendre des décisions fortes concernant la protection de l'environnement et l'écologie.
Oui,
et bien
mais...
sûr que Fessenheim, c'est un symbole, on est d'accord, politique, idéologique, mais c'est un symbole tellement fort et tellement puissant que je pense qu'en politique, c'est difficile de s'en passer.
Le problème, c'est qu'aujourd'hui, quelle est l'alternative? Parce que dans les énergies renouvelables, on a énormément de retard. Aujourd'hui, le mix énergétique, la proportion de l'origine de l'électricité, c'est quoi? C'est 70% des centrales nucléaires, 11% de barrages, 8% de gaz et 8% de renouvelables, c'est-à-dire l'éolien et le solaire. Et on sait bien pourquoi, et il y a eu une croissance d'ailleurs de plus de 20% cette année des renouvelables, parce qu'il y a eu beaucoup de vent.
C'est dépendant de la météo.
Si vous n'avez pas de soleil et que vous n'avez pas de vent,
mais l'objectif à long terme est de réduire la part du nucléaire. Et vous adhérez sur l'objectif?
Et puis c'est une partie de la
nécessairement de la France.
Non, je ne pense pas que ce soit. À mon avis, la France a fait. Là encore, il faut se poser la question de c'est quoi l'objectif et la stratégie long terme, et que voulons-nous demain pour les Français? Ne perdons pas de vue l'objectif de prix. La sécurité est absolument essentielle, mais elle est aujourd'hui quand même. On fait partie des pays qui sont les plus à cheval, si je puis dire, sur les enjeux de sécurité. Sécurité nucléaire, on est très bon et très fort, très pointu, et on progresse en permanence.
Notamment
on investit beaucoup d'argent sur ces questions-là. Voilà, quelle est notre stratégie et quelle est la stratégie européenne? Pour l'instant, on n'a pas de stratégie. C'est une espèce de flou artistique. On est guidé par les opinions, les émotions, par effectivement l'idéologie du moment. Et c'est pas pragmatique.
Oui,
et par contre, est-ce que les Français sont d'accord? Moi, je pose juste la question. Si les Français sont d'accord pour payer 50% leur énergie électrique plus chère d'ici 10 ans, alors allons-y à fond.
Oui, mais vous posez la question avec uniquement une donnée.
C'est la question à laquelle il faut poser.
Non, parce que dans la balance, il y a d'autres choses que le prix.
Fin du monde et fin de moi, on a bien vu ce que ça donnait les gilets jaunes, quoi.
Merci les grandes voix. On ne fera pas tout le débat sur le nucléaire, évidemment, ce soir, mais effectivement, c'est une page qui se tourne et c'était bien d'y revenir avec vous. Merci à tous les trois, Laetitia Krupa, Roselyne Fèvre, Alexandre Malafaï. Bon week-end à tous les trois.
Votre grand journal du soir continue, Sébastien Krebs avec au programme.
Isabelle Millet qui revient pour le journal de 19h et on ira voir où en sont les discussions européennes sur le budget de la politique agricole commune. À tout de suite.
Vous écoutez Sébastien Krebs, c'est votre grand journal du soir sur Europe 1.